Alors, on poursuit notre série dans l'Épître de Paul aux Romains. Nous sommes ce matin au chapitre 6. Donc, on va lire à partir du verset 15. Et nous sommes à la page, 736. 736. Et avant de lire ce passage, je vais prier. Notre bon Père Céleste, par cette parole, conduis-nous à te connaître davantage, à t'aimer davantage et à te servir plus fidèlement. Puisse cette parole ce matin éclairer notre chemin, transformer notre cœur, nous conduire à la repentance et à la foi pour que nous puissions être des adorateurs en esprit et en vérité, fidèles à tous égards. Aide-moi à l'expliquer fidèlement et clairement. Je t'en prie, au nom de Jésus. Amen. Donc, Romains chapitre 6, on va lire à partir du verset 15. Quoi donc ? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce ? Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez ? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié, alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confié. Et une fois libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui. À leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libéré du péché et que vous êtes devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ignorez-vous, frères et sœurs, je parle ici à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme, du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi, à travers le corps de Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, quand nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. Nous allons arrêter notre lecture là. Alors, notre passage de ce matin commence avec une phrase que bien des chrétiens citent de temps en temps. Nous ne sommes pas sous la loi. Plus sous la loi parce que nous avons changé de régime. Nous avons changé de pays en quelque sorte. Ces dernières semaines, des combats immenses ont été menés en Irak et en Syrie pour dégager le régime de Daesh, d'État islamique. Et bien des personnes ont été libérées de leur emprise, de leur gouvernance. Et ces personnes-là ne sont plus sous la loi de Daesh. En ce moment même, les habitants du Zimbabwe se demandent à quoi le nouveau régime va se ressembler. Parce qu'il semble que l'ancien dictateur est sur le départ. À quoi ressemblera le nouveau gouvernement? Quelle constitution sera adoptée? Il va y avoir du changement. Il y a presque 30 ans, le mur de Berlin s'est effondré. Événement marquant de ma jeunesse parce que j'y avais été juste quelques jours auparavant. Je me suis baladé dans les rues de Berlin-Est. J'ai vu des soldats de l'ancien régime, des soldats soviétiques aussi. Et les citoyens de l'Est sont devenus des citoyens de l'Allemagne fédérale. Plus sujets à la loi de l'Est, mais maintenant sujets à la loi fédérale. Il y a eu un changement. Dans cette section de la lettre de Paul aux chrétiens de Rome, l'apôtre Paul explique le changement qui nous est arrivé. Il explique les fondements de notre foi, ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir et comment on vit ça au présent. Et il a parlé de deux régimes ou de deux pays, deux royaumes. L'un a pour chef d'État Adam, le premier homme, et l'autre a pour chef d'État Jésus-Christ, Dieu fait homme. Nous sommes tous nés citoyens du royaume d'Adam. À notre naissance, en tant qu'être humain, on est dans la lignée d'Adam, qu'on le veuille ou non. Et nous avons tous ce passeport-là. Et comme Maxime nous a expliqué il y a 2 semaines, c'est un régime, un pays bien sombre. Un régime où le péché règne par la mort. Il règne parce qu'il conduit à notre condamnation, à la mort éternelle. Parce que nous sommes pécheurs par Adam, en Adam, et par notre propre rébellion, la loi de Dieu, celle qu'il a donnée à son peuple, comme celle qu'il a écrite dans nos cœurs, la loi morale, acte notre condamnation. La constitution, en quelque sorte, du pays d'Adam acte notre peine de mort, notre condamnation. En effet, la loi ne nous aide pas. Elle fait simplement constater toutes nos fautes et le fait qu'on mérite la condamnation de Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est ce que l'évangile de Jean nous dit. Et en effet, un autre royaume a surgi. Il a pour chef d'État Jésus-Christ, un chef bienveillant. Michael nous a parlé de notre bon berger ce matin. Il est ce chef d'État bienveillant. Et son régime, son royaume est tout autre. Jésus n'a pas péché. Jésus a été obéissant à tous égards. Et dans son royaume, il justifie. Il donne le don gratuit de la justice à tous ceux qui se fient à lui. Ils mettent leur confiance en lui pour qu'ils ne soient plus condamnés et pour qu'ils aient la vie éternelle. C'est un don, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est sa grâce. Par ce don de justice, tous ceux qui se fient à lui peuvent être non pas condamnés, mais justifiés, acquittés, une bonne fois pour toutes de manière juste. Une bonne fois pour toutes, parce que cet état ne change pas. On vit tous des hauts et des bas. Le péché est quand même toujours présent. On est faible. Parce que si nous avons changé de régime, de pays, de royaume, en réalité, parce que nous sommes encore dans nos corps mortels, nous avons un pied dans le royaume d'Adam et un pied dans le royaume de Christ. C'est comme si un pays sûr, un pays de liberté, nous avait octroyé une nouvelle citoyenneté. Nous sommes devenus citoyens à part entière de ce nouveau pays sûr et libre. Mais nous sommes encore à l'aéroport de notre ancienne patrie. Un pays bien sombre, marqué par l'oppression, par la mort, par le péché. Nous avons de nouveaux passeports. Nous avons la protection diplomatique de notre nouvelle patrie. Mais nous voyons autour de nous l'oppression, les policiers de cet État, les espions. Alors l'illustration est sans doute bien imparfaite, mais nous sommes devenus des citoyens du royaume de Jésus. La grâce a surabondé à notre égard. Et nous sommes maintenant à lui. Nous avons son passeport, en quelque sorte. Mais nous sommes dans cet aéroport. Et la présence du péché et de la mort est là. Elle est saisissante. Et la présence du péché ne veut pas dire que l'évangile n'a pas marché. Elle montre que nous sommes dans l'attente de la réalisation plénière de la victoire de Jésus sur la croix. Et en attendant, nous avons du pain sur la planche. On doit vivre dans cet aéroport, en quelque sorte, comme des citoyens, comme des sujets du Seigneur, notre Seigneur si bienveillant. Et dans le passage de la semaine dernière, Keith nous a parlé de notre union avec Christ. Une union rendue tangible, visible par notre baptême d'eau, où nous avons exprimé notre confiance en Christ. On est dorénavant unis à Jésus. Nous sommes passés d'un royaume à l'autre par cette union à Christ. Et du coup, on ne vit plus pour notre ancienne patrie. On ne veut plus rien avoir avec cet ancien pays d'oppression, de mort, de péché. On a renoncé à cette nationalité-là. On est mort avec Christ. Avec Christ dans sa mort et en Christ. Par notre union à lui dans la foi, nous avons été rendus à la vie. Et nous attendons la résurrection corporelle avec Christ. En quelque sorte, le passage de la semaine dernière nous a montré comment Jésus défait la constitution du pays d'Adam. En Christ, nous sommes morts au péché, ce péché qui régnait par la mort. Et du coup, dans la mort de Jésus, qui devient notre mort, on ne peut plus être mis à mort de nouveau. Jésus a été condamné à notre place. Et du coup, la mort n'a plus de prise sur nous. La mort ne peut plus nous retenir. La constitution de cet ancien pays est caduque en quelque sorte. Et dans un sens, notre passage de ce matin continue de faire la même chose. Il défait la constitution du régime d'Adam. Il nous explique aussi la constitution, la manière de faire du royaume de Jésus. Et logiquement, il y a la question de la loi. Parce que la loi était du côté du pays d'Adam, de son régime, de son royaume. Pourtant, il s'agit quand même de la loi de Dieu. Comme on l'a vu il y a quelques semaines dans Romains 2, par exemple, la loi est bonne, la loi vient de Dieu. Elle nous montre ce qui est bon, ce qui est juste, ce qu'il faut faire, ce qui plaît à Dieu. Et Paul a dit au verset 14, « Vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Donc qu'est-ce que ça veut dire au juste? Il y a une question logique. Est-ce que ça veut dire qu'on peut simplement faire ce qu'on veut? Plus de loi. Est-ce qu'on fait ce qu'on veut? Quelques exemples. Alphonse à la cinquantaine. Il travaille dur. Il a 3 enfants à charge et malgré la CAF, il a quand même du mal à boucler ses fins de mois. Même s'il est diacre dans l'église, il a commencé à tricher ici ou là avec ses impôts. Les boulots supplémentaires qu'il fait pour boucler ses fins de mois, il ne les déclare pas. Il se dit, de toute façon, l'État est trop gourmand et enfin, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce quand même. Amandine, à la quarantaine, avec le temps, avec les années qui passent, elle n'hésite plus à dire ce qu'elle pense. Ce qu'elle pense des autres, avec leurs habitudes, avec leurs coutumes culturelles. Alors, elle ne ment pas. Il y a toujours un fond de vérité dans ce qu'elle dit. Mais ce qu'elle dit fait du mal aux autres. C'est blessant. C'est limite raciste. Mais bon, elle est ce qu'elle est. Et elle se dit, et les autres disent, on n'est pas sous la loi. On est sous la grâce. Jean-Pierre, lui, a 25 ans. Ça fait quelques années qu'il est chrétien, il est engagé, il veut servir le Seigneur, peut-être même devenir pasteur un jour. Et récemment, il a rencontré une fille au travail qui est vraiment sympathique, très généreuse, très gentille, mais elle ne croit pas en Jésus. Alors elle aime bien discuter de la philo, de la religion, de la vie quoi. Et elle est folle de lui, il est fou d'elle, il a commencé à sortir avec elle. Alors il ne dit pas trop aux frères et sœurs de l'église parce qu'il se dit qu'il ne comprendrait pas. Il espère la gagner à la fois. Et pour être honnête en ce moment, c'est plutôt le laisser aller qui le gagne lui. Mais il se dit, je ne suis plus sous la loi, mais sous la grâce. Et peut-être pour vous, c'est autre chose, peut-être autre chose qui vous fait dire à peu près la même chose. Peut-être c'est la pornographie, les mensonges. Peut-être même une affaire émotionnelle avec un ou une collègue à l'insu de votre épouse. Et en effet, comme l'apôtre Paul nous dit ce matin, nous ne sommes plus sous la loi, cette loi qui nous condamnait. Il fallait qu'on soit dégagé de cette loi parce que la loi ne fait que nous condamner. Si on vit dans un pays, un royaume, où notre relation avec Dieu dépend de la loi, si elle est gouvernée par la loi, on ne va pas s'en sortir, on sait qu'on sera condamné. C'est pour ça que dans le pays de Jésus-Christ, c'est la grâce qui doit gouverner, qui doit régir, qui doit gouverner notre relation avec Dieu. Mais on va voir que cette grâce-là ne produit pas le laisser-aller. Elle s'oppose farouchement au péché. En fait, comme on va voir, elle produit la justice que la loi réclame, et pas par la loi, ou d'une manière encadrée ou sujette à la loi, mais par la grâce. Ce matin, on va voir ça en trois points. Donc, on a trois points. On voit ça aussi dans les bulletins de chant. Premièrement, qui est notre vrai maître? Qui est notre vrai maître? Et ça sera notre premier point. Et ensuite, deuxième point, servons notre nouveau maître. Et troisièmement, nous sommes à lui, car nous sommes à lui. Qui est notre vrai maître? Parce que dans un premier temps, Paul ne va pas vraiment expliquer notre relation à la loi. Il pose d'abord un autre principe. Ensuite, il illustre et finalement, il applique. Alors, quel est ce principe? Verset 16. « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Nous, on est toujours à la recherche de la liberté. C'est très humain. Ça fait partie de la devise de notre République. On veut être des hommes et des femmes libres. Mais celui qui a tenté d'arrêter de fumer sait que la liberté n'est pas si évidente que ça. Et en fait, l'apôtre Paul nous dit que la liberté absolue, pour nous, humains, n'existe pas. Elle est une chimère. Elle nous a été faussement promise dans le jardin d'Éden par le serpent. Et en fait, nous sommes des créatures dépendantes. Nous ne sommes pas le créateur qui, lui, est le seul qui est vraiment libre. Du coup, nous aurons toujours un maître, quelqu'un au-dessus de nous. Et notre appartenance à un maître ou un autre se voit, voici le principe, notre appartenance à un maître ou à un autre, se voit, se manifeste dans ce que nous faisons. Si nous nous donnons au péché, à savoir la désobéissance à l'égard de Dieu, à notre maître, c'est le péché. Et le seul autre alternative, c'est l'inverse du péché, l'obéissance à Dieu. Et si nous obéissons à Dieu, notre maître, c'est la justice, à savoir ce qui plaît à Dieu, ce qui le caractérise. Et c'est parce que nous sommes par nature des adorateurs. Si nous n'adorons pas le seul vrai Dieu, nous ne sommes pas neutres et nous adorons autre chose, fatalement, automatiquement. Et si ce n'est pas Dieu, c'est forcément quelque chose qui est dans sa création, parce qu'il n'y a que Dieu et sa création. Et souvent, c'est nous-mêmes, nos ambitions. Ne soyons donc pas dupes. Ce que nous faisons dans la vie quotidienne, par nos choix quotidiens, révèle qui est notre maître, de qui nous sommes vraiment esclaves. Oui, dans un sens, ce mot « esclave » nous rebute un peu. Après tout, notre Dieu n'est pas un Dieu esclavagiste, de mèche avec des propriétaires de plantations sucrières, loin de là. On l'a vu ce matin, il est un bon berger. Son joug est d'une douceur, d'une bienveillance extraordinaire. Mais il s'agit quand même d'un joug. Au verset 17 et 18, Paul nous explique ce qui nous est arrivé quand nous avons changé de régime, quand nous avons changé de royaume. Mais que Dieu soit remercié. Alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous aviez été confié. Et une fois libéré du péché, vous êtes devenu des esclaves de la justice. Que Dieu soit remercié parce qu'in fine, à la longue, en fait, c'est son œuvre. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui nous a libérés. Il a libéré nos cœurs. Il nous a arrachés du maître qui s'appelle le péché. Et grâce à son œuvre, grâce à l'Esprit, nous avons pu mettre notre confiance en Jésus. Nous avons obéi de tout cœur au modèle d'enseignement qui est l'Évangile. Quelle est cette obéissance? Qu'est-ce qu'on a fait exactement? Voyant notre incapacité à plaire à Dieu par nous-mêmes, avoir une justice en nous-mêmes, nous avons tout simplement saisi par la foi Jésus-Christ. C'est lui notre justice, notre don de justice. Notre confiance est en lui. Et en mettant notre confiance en lui, on est unis à lui. Et Dieu peut nous déclarer juste de manière juste. Et nous avons obéi à cet enseignement-là. Je m'adresse à tous ceux parmi nous ce matin qui avons saisi Christ par la foi. On a renoncé à notre confiance, à la confiance en nous-mêmes, et on a mis notre confiance en Jésus. On a dit, Jésus est ma justice, lui seul, devant Dieu. Et nous sommes devenus ainsi des esclaves de justice. Des esclaves, en effet, de Christ lui-même. On n'est plus des esclaves du péché. Ce maître qui nous brutalisait, qui nous conduisait à la mort, à la condamnation. Nous sommes morts au péché parce que dans la mort de Christ, Christ a purgé notre peine. Nous sommes quittes du péché, nous sommes justifiés, nous sommes libérés. Le péché ne peut plus nous condamner. La condamnation est déjà tombée sur Christ. Chers frères et sœurs, amis, ne savez-vous pas, dit l'apôtre Paul, ne savez-vous pas? Parce que l'apôtre Paul fait appel à notre intelligence renouvelée, à l'esprit. Ça, c'est ce qui nous est arrivé. Oui, on le sait, mais on l'oublie si rapidement. C'est par grâce que nous avons changé de maître. Et notre nouveau maître est bienveillant. C'est lui qui est mort à notre place. C'est lui qui a purgé notre peine. Et en lui, collé à lui, couvert de lui en quelque sorte, uni à lui, avec sa justice, Dieu peut nous déclarer juste de manière juste. Et on a la paix avec Dieu. On a l'espérance, une espérance qui ne va pas nous faire rougir au dernier jour. Nous avons la vie. Nous avons l'espérance de la résurrection. On a vu il y a 2 semaines, 3 semaines, l'esprit que Dieu a versé dans nos cœurs témoigne de l'affection de Dieu pour nous. Il nous aime. On est devenus ses enfants. Quelle folie d'oublier ça. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Mais si rapidement, parce qu'on vit dans le chevauchement de ces deux royaumes, on a tendance à perdre pied et être attiré de nouveau par le péché. Mais, pour revenir à ces exemples, Alphonse, pourquoi tricher? Pourquoi vous donner au péché en trichant avec ses impôts? Vous êtes en train de revenir à votre ancien maître, un maître qui souhaite votre mort. Vous avez un nouveau maître. Vous l'avez manifesté en vous accrochant, en recevant Christ. Vous avez goûté à l'amour de Dieu. Amandine, cette langue déliée qui blesse, c'est pas anodin. Qui est votre maître? Est-ce Christ? Est-ce la justice? L'obéissance à Christ? Celui en qui vous avez la grâce de Dieu? Attention, ne vous endurcissez pas, ne laissez pas votre cœur s'endurcir. Et Jean-Pierre, vous êtes sur une piste bien glissante. Vous êtes en train de revenir à votre ancien maître. Oui, cette fille fabuleuse à plein d'égards. Mais le sauveur l'est beaucoup plus. En lui, il y a la vie. Et par lui, vous avez la paix avec Dieu. Et son joug est léger et bienfaisant. Il connaît votre avenir. Il est souverain. Vous pouvez lui faire confiance. Qu'est-ce que Paul veut dire à Alphonse, à Amandine et à Jean-Pierre et à nous-mêmes, à nous? Servez votre nouveau maître. Servons notre nouveau maître. C'est notre deuxième point ce matin. Avant de connaître Christ, nous étions des esclaves qui offraient leur corps, leur membre, continuellement à l'impureté et à l'injustice. Et Paul nous en a longuement parlé au chapitre 1, 2 et 3. Avec une pensée obscurcie, loin de Dieu, rebelle à son égard, nous nous adonnions, souvent sans le savoir, à ce maître qui s'appelle péché. Et dans un sens, pour le dire au verset 20, nous étions libres, mais simplement libres par rapport à la justice. La justice, cette justice qui plaît vraiment à Dieu, n'était même pas à notre ordre du jour. Paul nous dit, de la même manière, maintenant, servez votre nouveau maître, offrez vos membres, vos corps à ce nouveau maître, pour le servir, pour servir la justice, pour faire ce qui plaît à Dieu, faire ce qui caractérise les actions qui sont en conformité avec le caractère même de Dieu. Vivez pour Christ. Produisez la sainteté. La sainteté, c'est le fait d'être séparé du mal et être entièrement dévoué à Dieu. Au verset 20 au 23, Paul contraste notre passé et notre nouvelle situation. Et cette fois-ci, il nous parle des fruits de chaque situation et aussi le résultat final. Lorsque nous étions esclaves du péché, nous portions du fruit dont nous avons maintenant honte. À l'époque, nous n'en avions pas honte. La honte, c'est un sentiment très fort, n'est-ce pas? Nous nous sentons, quand on pense à ce que nous faisions, nous pouvons nous sentir comme salis, comme si on est malpropre. Et quand nous nous adonnons à ce qui déplaît à Dieu, Nous sommes loin de lui,
dans les ténèbres,
dans la boue.
En effet, le péché nous salit, commence à nous éloigner de Dieu. On a peur qu'il voit
ce qui est en nous.
Ce péché nous dénigre et
laisse des grosses taches.
Et Alphonse en sait quelque chose. Il ne veut pas parler de ses impôts avec ses frères et sœurs à l'église. Ça, il fera tout pour cacher ça. Jean-Pierre, lui, même s'il essaye de se justifier, a quand même un peu honte de ce qu'il fait. Parce qu'au lieu de gagner sa copine à la foi, en fait, il a commencé à coucher avec elle. Et cette honte-là, cette honte terrible, va tôt ou tard l'éloigner de Dieu. Il aura honte de s'approcher du Dieu trois fois saint, venir dans sa présence, s'approcher du trône de la grâce. Il aura honte, il s'éloignera de la communion de l'Église. Ce qui est peut-être terrible, c'est qu'Amandine n'a même plus honte de ce qu'elle dit. Son cœur devient vraiment obtus. Qui est son maître? En effet, servir le péché conduit inéluctablement à la mort. Il y a là un avertissement. Quand nous pensons à nos passés avant Christ, avant de connaître Christ, on a raison d'avoir honte de ce que nous faisions. Et il n'y a aucune raison d'étaler maintenant ce que nous faisions avant. Et on a honte parce que nous avons rencontré Christ avec sa lumière bienveillante qui nous montre toute la noirceur, la laideur de ce que nous faisions. On est maintenant devenus des esclaves de Dieu. Et le fruit, c'est la sainteté. Nous sommes libres parce qu'il n'y a plus aucune condamnation de nous approcher de notre Dieu trois fois saint. On peut venir dans sa présence, on peut aimer sa sainteté. On n'a plus peur de nous approcher de lui. On peut devenir de plus en plus dévoué à lui, sans crainte de condamnation. On commence à aimer sa sainteté. En Christ, nous sommes devenus des ustensiles propres pour son usage, pour lui. On est ses esclaves pour lui. Lui qui est saint et juste. Comment donc revenir? Comment revenir à des choses dont nous avons maintenant honte? Au verset 23, Paul conclut un peu cette section. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. En servant le péché, si on sert le péché, on mérite la mort. Mais Paul ne dit pas qu'en obéissant, en réformant nos vies, que nous allons mériter la vie éternelle. Non, il s'agit d'un don gratuit. On l'a déjà vu au chapitre 3. Si on a mis notre confiance en Jésus, on a reçu ce don. Et donc on a changé de pays, changé de royaume pour être à Dieu pour l'éternité. Dieu nous a dévoués en quelque sorte, nous a donnés à Jésus pour être ses esclaves. Nous sommes comme au temple, comme des objets dédiés, dévoués à Dieu, choisis pour un usage noble, pour faire honneur à l'Éternel, pour faire des choses justes, agréables et parfaites. Ça, c'est ce qui vous êtes devenu. Vous êtes son enfant. Vous êtes à lui maintenant. Vous êtes saint. Vous êtes déjà saint, dédié, dévoué à Christ, donné à Christ. Donc, dit Paul, devenez saint. Comme Dieu est saint. Et Alphonse, Amandine et Jean-Pierre ont besoin de s'en souvenir. Ils sont des esclaves du Dieu trois fois saint. Celui qui en Christ les a libérés du péché, libérés de l'emprise du péché. Il n'y a plus aucune condamnation pour eux. Ils peuvent s'approcher de Dieu en toute liberté, voir toute la grandeur, la beauté de sa sainteté, être dans sa présence. Ils n'ont pas à revenir en arrière, dans la boue. Et vous et moi, nous avons besoin de nous le rappeler aussi, face peut-être à cette chose qui nous fait un peu honte. On ne veut pas que les autres sachent qu'on est en train de vivre ça. On a besoin de nous souvenir du fait que nous sommes maintenant à Christ, esclaves de Christ, dévoués, donnés à Christ pour un usage noble. On a été lavés, on est aimés, on est vivants. Comment donc revenir en arrière à ce qui est honteux, salissant? Pourquoi devenir un esclave du péché? Le temps nous est un peu compté, mais j'aimerais juste brièvement commenter les six premiers versets du chapitre 7 et ensuite Keith, la semaine prochaine, va en dire un peu plus. Paul revient à cette question de la loi au chapitre 7, au fait que nous ne sommes plus sous la loi. Quel est notre rapport à la loi au juste? Paul pense d'abord à la loi de Moïse, mais aussi à la loi de manière générale, la loi écrite dans nos cœurs, la loi morale de Dieu. Dans un sens, c'est étonnant que la loi de Dieu soit du mauvais côté des deux royaumes. Il s'agit quand même de la loi que Dieu a donnée, la loi qui est bonne, qui est sainte, qui nous montre ce qui est juste, bon et saint. Il utilise une illustration pour nous l'expliquer, une illustration qui concerne le mariage. Et par cette illustration, Paul nous enseigne qu'en effet, nous ne sommes plus sous la loi. Nous avons une nouvelle relation avec Dieu qui n'est plus gouvernée par le cadre de la loi. Et il parle d'une femme dont le mari décède, et puisqu'il meurt, le mari meurt, cette femme est libre de se remarier. Tant qu'elle est liée par cette loi du mariage lors du vivant de son mari, elle ne peut pas épouser quelqu'un d'autre. Alors Paul ici ne sait pas de donner un enseignement exhaustif sur le mariage, le remariage, le divorce et ainsi de suite, mais il veut poser un principe simple pour nous enseigner que parce que Christ est mort et parce que nous sommes morts en lui, avec lui, la loi, en tant que loi, en tant que régime qui gouverne notre relation avec Dieu, soit pour nous condamner, soit pour nous justifier, ce régime-là ne s'applique plus à nous. La loi était du mauvais côté des régimes en quelque sorte. Elle nous condamnait à mort. Elle ne nous aidait pas à combattre le péché. Elle exposait plutôt notre péché. Elle était contraire à la grâce. Elle attisait même nos désirs pécheurs par ses interdits. Il fallait qu'on soit dégagé de ce régime-là, de cette loi, ce régime de loi, parce que cette loi, ce régime de loi ne pouvait pas nous sauver. Mais en mourant à la loi, comme cette femme mariée qui peut maintenant prendre un autre mari, qu'est-ce qui nous est arrivé? En mourant à cette loi, dans la mort de Jésus, on a été donné à un autre, à celui qui est ressuscité, à Jésus lui-même, celui qui a parfaitement accompli la loi, qui a obéi d'une manière parfaite à la loi, qui a vécu de manière obéissante et juste. Nous avons été donnés à Jésus. C'est lui, notre nouveau mari en quelque sorte. Nous sommes à lui. C'est ce que Paul a déjà dit au chapitre 6. On est à lui, à celui qui nous a sauvés, à celui qui a accompli la loi pour nous, à notre place. Et ça pour le servir, pour porter du bon fruit. Nous le servons, on le voit ici, on va voir ça un peu plus en détail au chapitre 8. On le sert par l'esprit et non selon l'ancien régime de la loi. Alors c'est déjà ce qui est évident, c'est que l'esprit produit en nous ce qui plaît à Dieu, ce qui plaît à notre nouveau maître. En quelque sorte, notre nouveau maître, c'est notre nouvelle loi, notre première référence en termes de notre relation avec Dieu n'est plus la loi qui peut me condamner. Cette loi ne gouverne plus ma relation à Dieu pour que je sache si je suis accepté ou pas. Je suis carrément mort à cette loi, mais mort pour être à Jésus-Christ. L'homme d'obéissance par excellence et par l'esprit, je dois marcher dans son sillon pour lui ressembler, pour lui obéir. On n'est plus sous la loi, cette loi qui nous condamne. Que Dieu en soit remercié, mais dans sa grâce, il nous a donné à Jésus. On est esclave de Jésus pour le servir, pour être à lui, pour servir celui qui nous a donné la vie. Et c'est quand nous oublions notre union avec Christ que nous sombrons, que nous revenons en arrière à l'ancien régime. En nous oublions que nous avons tout dans notre union avec Jésus. Dieu nous a donné un maître bienveillant, un mari doux et humble de cœur, un sauveur qui nous a donné sa justice, sa vie parfaite, un sauveur qui a déjà payé pour toutes nos fautes. Il nous a donné Jésus. Par la foi, nous avons saisi Christ. Et c'est lui notre nouvelle identité. Quand on pense à ces illustrations avec un changement de pays, avec un nouveau passeport, une nouvelle patrie, c'est lui Jésus. Lui qui est notre justice. Et nous sommes dévoués, donnés à Jésus. Que le Seigneur nous aide donc cette semaine à nous en souvenir, peut-être dans les moments de tentation, que nous avons été dévoués, donnés à Jésus-Christ pour lui appartenir, à lui seul. Et notre maître est un maître ô combien bienveillant qui nous conduit sur les chemins de la sainteté et de la justice. Prions. Notre bon Père Céleste, merci de nous avoir arrachés à l'esclavage du péché, à ce régime qui ne promettait que la condamnation. Et nous méritons ce salaire, cette mort. Mais dans ta grâce, tu nous as transférés au royaume de ton Fils. Nous sommes en lui avec sa justice. Nous sommes au bénéfice de sa grâce. Nous avons été déclarés justes en lui, en vertu de sa justice qui nous a été donnée. Merci pour cette liberté. Merci de ce que cette loi ne gouverne plus notre relation avec toi. Elle ne peut plus nous condamner. Nous avons été donnés à Christ. Lui, notre justice. Lui, notre loi, en quelque sorte. Donne-nous de suivre Jésus. Donne-nous de marcher à sa suite et de produire des fruits qui te plaisent. Des fruits de la sainteté. Des fruits de justice. Donne-nous de nous approcher de toi cette semaine, à rester dans ta présence, dans ta sainteté, avec choix, avec liberté. Change nos cœurs pour que nous aimions de plus en plus cette sainteté. Et donne-nous de produire de tels fruits. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.